Mais je me lave uniquement quand je vais travailler parce qu'on économise où on peut.
Je pense que tous les moyens sont là, mais malheureusement, ce n'est pas pour nous, tout simplement.
Les quartiers, pour moi, ça reste des volcans non éteints.
Ah, les gens au RSA, c'est pas la vie en rose. Il y en a, ils disent des fois, ah, bah, t'es au RSA, t'es tranquille et tout. Bah, donne-moi un travail, moi je préfère.
Il restera toujours l'ancien et le nouveau qu'on a vu.
QH Podcast.
À Strasbourg, l'histoire du quartier Cronenbourg est intimement liée à celle de la brasserie du même nom. Elle emménage en 1862 dans le sud-est du quartier, entre les routes d'Oberhausbergen et de Mittelhausbergen. Elle emmène avec elle une importante main-d'œuvre ouvrière. Sur place, celle-ci cohabite avec les fermes et les maraîchers historiquement installés sur ces terrains. On vous propose de plonger avec nous dans l'histoire singulière de ce quartier, qui a mêlé pendant 2 siècles industrie et ruralité.
Nous avons rencontré Robert Betcha, professeur d'histoire-géographie au collège de Bischheim. Sur sa chaîne YouTube Strasbourg en histoire, il partage sa passion pour l'histoire locale. Un podcast réalisé par Pauline Moyer et Laura Perrusson.
Je m'appelle Robert Betcha, je suis enseignant en histoire-géo dans un collège, dans la banlieue de Strasbourg, depuis déjà de nombreuses années. J'habite Cronenbourg, rue des Ormes, dans un quartier d'ailleurs, je me suis un peu intéressé, qui s'est développé assez tardivement, après la Première Guerre mondiale. Cronenbourg, avant, sur toute l'Antiquité, il n'y a absolument rien. Toutes les fouilles archéologiques ont été menées dans ce petit bourg, n'ont rien trouvé. On n'a rien trouvé. Et ceci pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Cronenbourg, ben, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est un petit village, quelques fermes assez éparpillées, parce qu'elle est en dehors des murailles de la ville. Mais Cronenbourg, il y avait quand même quelque chose, malgré tout ce que je viens de vous dire, de sinistre réputation, il y avait la potence de la ville. La brasserie arrive environ au milieu du 19e siècle. Alors elle s'installe pour 2 raisons. D'abord, il y a du terrain. Forcément, comme je vous l'ai déjà indiqué, le lieu n'est pas très pris par l'urbanisme. Et il y a une deuxième raison, c'est que le site de Cronenbourg est occupé par ce qu'on appelle un sous-sol du Loss. Donc un sous-sol qui permet de construire des caves imperméables. La nappe phréatique ne remonte pas pour pouvoir stocker, entre autres, des produits au frais. De la glace, et il en faut pour faire de la bière, et puis la bière, on fuit après. Bah forcément, une brasserie ouvre, une entreprise, et il faut des bras, donc elle va drainer aussi un grand public, cette fois-ci industriel, d'ouvriers. Quoi. Mais sur place, ils vont cohabiter avec les quelques fermes éparses dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui forcément, au fil des siècles, se sont agrandies, d'autres sont venus les rejoindre, et avec un noyau historique qu'on peut aller installer dans ce qu'on appelle le vieux Cronenbourg. Jusqu'au XXe siècle, on peut quand même dire que oui, que cette brasserie n'est pas anodine. C'est vraiment le poumon économique, on va dire, du quartier Cronenbourg. Déjà par sa forte présence physique, c'est quand même une usine relativement grande, et puis surtout par la masse salariale qu'elle entraîne derrière elle. Et qui sont souvent logés à proximité. Quoi. Donc, il faut les nourrir, il faut les loger. On reste quand même sur une base salariale ouvrière, hein, donc avec des maisons ou des lotissements qui sont construits à proximité de la brasserie. Ça reste un des quartiers ouvriers. On peut dire que c'est même unique sur l'histoire de la ville, un quartier où on a comme ça une mixité sociale, industrielle, ouvrière, et avec la présence de maraîchers. Le premier bruit qui me vient à l'esprit, si on refait un saut dans le temps, je pense que c'est le bruit du tramway. Le tramway passait, venait déjà d'Oberhausbergen, où étaient les champs cultivés. Le tramway passait rue de Mittel pour rejoindre Strasbourg, donc la ville, et vendre les différentes productions d'agrumes, ou de fruits, ça doit être sûrement le bruit du tram qui passait dans cette rue. Après, c'était un quartier très animé, hein, donc forcément, tous les ouvriers de la brasserie, avec beaucoup de présence de bars, souvent des staminets, de restaurants et encore ces fermes qui étaient encore présentes, des bâtiments assez impressionnants qui pouvaient des fois occuper toute une rue. Les propriétaires de fermes étaient quand même des personnes assez, du moins aisées, qui possédaient leurs bâtiments, leurs fermes. On ne peut pas parler de précarité telle qu'aujourd'hui on l'envisage. D'ailleurs, la brasserie va se prolonger jusqu'à la période allemande. Les Allemands vont continuer à développer cette brasserie, avec tous les avantages sociaux qu'il peut y avoir aussi à côté, à l'occasion de son chômage, par exemple. Pour cette population ouvrière, souvent mal logée, souvent dans des logements très réduits, très mal chauffés aussi, avec pas forcément l'eau courante à chaque fois dedans, avec juste la présence d'un petit jardinet, ou devant, ou à l'arrière. Pour eux, la ville, c'était loin. Il faut s'imaginer que toute cette population vivait un peu entre elles, en autarcie, à Cronenbourg. Et qu'il y avait déjà à l'époque tout ce qu'ils pouvaient désirer ou avoir besoin sur place. La société nucléaire vient s'installer dans les années 60, occupée par le CNRS, avec donc tout à côté un quartier, mais cette fois-ci beaucoup plus important et forcément dans les années 60 beaucoup plus mieux doté que nos fameuses maisons des ouvrières, et qui était destiné aux chercheurs, aux scientifiques qui travaillaient dans ce laboratoire. On reste dans un quartier qui a été rénové aussi dans les années 70-80, avec des constructions tout autour en forme, donc cette fois-ci plus d'HLM et de tours, avec un accueil d'une population un peu plus paupérisée. Strasbourg grandit en termes de population, en termes d'accueil de gens qui viennent de l'extérieur aussi, et il faut construire. Et Strasbourg a une chance énorme. On le voit à Cronenbourg, on le voit dans le reste de la ville, elle a du terrain. Alors il y a principalement un exode rural, des gens qui viennent des villages qui sont attirés par les grandes villes pour le travail, et puis vous avez aussi après l'immigration, très important dans les années 60-70, forcément. La France, il faut bien la reconstruire, donc on fait venir de la manœuvre et il faut bien la loger. Mais, encore une fois, allez, pour l'époque, si on se replace dans cette époque-là, on est encore dans les 30 glorieuses, c'était du haut standing, avec quand même tout le confort moderne qu'on pouvait trouver dans des logements comme ça, qui aujourd'hui ne font plus rêver, quoi. Qu'est devenue notre brasserie finalement? Elle a quitté Cronenbourg il y a quelques années. Le sol a été dépollué et on y a installé dessus un éco-quartier avec du logement social. Alors le départ de la brasserie a surtout permis à la ville de récupérer du terrain. Et ça c'est très important parce que aujourd'hui Strasbourg manque cruellement de logements. Et son gros problème c'est de construire... C'est de construire des logements aussi accessibles, donc du logement social, et elle n'a plus de place. Donc ça a été presque une bénédiction pour la ville de Strasbourg que la brasserie quitte le quartier Cronenbourg pour pouvoir préempter ce terrain et construire du logement. On peut parler de gentrification même ici à Cronenbourg. Pourquoi ? Encore une fois, pour l'accessibilité des prix. Et aujourd'hui aussi, ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est un quartier qui est très très bien desservi. Vous avez quand même une ligne de tram, vous avez deux lignes de bus, avec une population beaucoup plus jeune qui viennent et qui accèdent, qui achètent tout de suite. Il y a plusieurs Cronenbourg, c'est comme les poupées gigognes, les poupées russes. Vous en notez une, vous en avez une autre, vous en notez une, vous en avez une autre, pour arriver à la plus petite. Et on rajoute à chaque fois une autre poupée avec à chaque fois un autre quartier selon les influences de l'époque. On pourrait terminer en parlant de l'avenir. C'est que va devenir le quartier de Cronenbourg dans les 50 prochaines années, par exemple? Que va-t-il devenir? Eh bien, il va sûrement poursuivre ce mouvement de gentrification en espérant que ce quartier garde son âme de village.
Remerciements à Robert Betcha pour cet éclairage sur Cronenbourg ainsi qu'à Geneviève Kuhn.